Pourrions lire ensemble dans la seconde épître aux Corinthiens. Nous avions exprimé à la pensée, c'était hier dans l'étude, que, au verset 3 du premier chapitre, que Dieu était le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous consolait à l'égard de notre affliction. Et c'est ainsi que commence cette seconde épître. Je voudrais lire quelques versets ensemble pour essayer de tracer quelques instructions que nous pourrions glaner au milieu de cette remarquable épître. Chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, à l'égard de ceux qui sont sauvés et à l'égard de ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort pour la mort et aux autres, une odeur de vie pour la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne sommes pas comme plusieurs qui frelatent la parole de Dieu, mais comme avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu nous parlons en Christ. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous ou de lettres de recommandation de votre part? Vous êtes, vous, notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifesté comme étant la lettre de Christ, dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. Chapitre 3, toujours le verset 17, le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Verset 3 du chapitre suivant. Chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas sur eux. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous, étant dans la tribulation de toute manière, mais non pas réduits à l'étroit, dans la perplexité, mais non pas sans ressources, persécuté, mais non pas abandonné, abattu, mais ne périssant pas, portant toujours, partout, dans le corps, la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort opère en nous, mais la vie en vous. Verset 16, ce qui correspond d'ailleurs au premier verset du chapitre 4, nous ne nous lassons point. Si notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous en mesure surabondante un poids éternel de gloire. Chapitre 5, verset 1, nous savons que si notre maison terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux. Car aussi dans cette tente, nous gémissons, désirant avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel. Chapitre 5, toujours verset 9. Que nous soyons présents ou que nous soyons absents, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréable. Deux désirs d'ardeur. Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes, mais nous avons été manifestés à Dieu, et j'espère aussi que nous avons été manifestés dans vos consciences. Verset 14, l'amour du Christ nous étreint. En ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. En sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Verset 18, « Toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation, savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen. Nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Or, les conséquences, travaillant à cette même œuvre, nous exhortons à ce que vous n'ayez pas reçu la grâce de Dieu en vain. » Chapitre 6, verset 4, « En toutes choses nous recommandant comme serviteurs de Dieu, par une grande patience. » Leur suivent la liste de quelques-unes des peines et des souffrances de l'apôtre, que nous ne lirons pas en détail. Mais nous lisons verset 13, « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? Et quel accord de Christ avec Béliar ? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule ? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. » Verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai. Et je vous serai pour père, et vous, vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Ayant donc ces promesses bien-aimées, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. » Alors un peu plus loin dans le chapitre 11, l'apôtre revient aux dissensions au milieu de l'assemblée de Corinthe, au travail délétère des faux docteurs qui s'étaient mis à accuser l'apôtre et à mettre en cause la réalité de son ministère. « Sont-ils hébreux ?» Verset 22, moi aussi. Verset 23, « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle, moi, comme un homme hors de sens, moi aussi, outre mesure, dans les travaux surabondamment, sous les coups excessivement, dans les prisons surabondamment, dans les morts, souvent. » 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups, moins un, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et une nuit dans les profondeurs de la mer. En voyage souvent, dans les périls sur les fleuves, dans les périls de la part des brigands, dans les périls de la part de mes compatriotes, dans les périls de la part des nations, dans les périls à la ville, dans les périls au désert, dans les périls en mer, dans les périls parmi de faux frères, en peine et en labeur, en veille souvent, dans la faim et la soif, dans les jeûnes souvent, dans le froid et la nudité. Outre ces choses exceptionnelles, il y a ce qui me tient à siéger tous les jours, la sollicitude pour toutes les assemblées. » Puis il rappelle l'affaire de Damas où il est descendu dans une corbeille. « Il est vrai qu'il est sans profit, chapitre 12, de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au troisième ciel, et je connais un tel homme, si ce fut dans le corps, si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, qu'il a été ravi dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, si ce n'est dans mes infirmités, car quand je voudrais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être ou de ce qu'il a pu entendre dire de moi. Et afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharpe pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur, afin qu'elle sortira de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. » Verset 10 à la fin, « Quand je suis faible, alors je suis fort. » Il repense à ses Corinthiens, chapitre 12, toujours verset 15, « Moi-même très volontiers je dépenserai, et je serai entièrement dépensé pour vos âmes. Si même vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé. » Frères et sœurs, chers amis, la lecture est peut-être un peu longue. Il convenait, il me semble, pour essayer de trouver un tableau pas complet, parce que la parole est infinie et d'une extraordinaire richesse, mais essayer de trouver un tableau quand même assez général de l'instruction que le Saint-Esprit désire nous présenter dans cet épître, il fallait lire ces passages. Bon, nous connaissons l'Assemblée de Corinthe. Le tableau moral de cette assemblée est dressé d'une manière très solennelle par l'apôtre dans la première épître, qui répond à plusieurs des questions qui avaient été posées par les Corinthiens et qui met le doigt, avec une immense douceur, mais avec quelquefois la sévérité et toujours la liberté de l'amour et de la lumière, qui met le doigt sur un certain nombre de choses qui devaient être réglées à Corinthe. Et l'ordre des choses qui nous sont présentées dans la première épître est tout à fait remarquable et nous permet de mieux comprendre la continuation de l'enseignement de l'apôtre dans la seconde épître, qui correspond en fait à une suite morale. Dans les quatre premiers chapitres de la première épître, l'apôtre prend l'assemblée à cœur. Nous savons que c'était son ministère qui avait permis pendant 18 mois la formation de cette assemblée dans la Grèce antique, qui était connue d'ailleurs pour sa corruption et sa sagesse philosophique qui n'était en fait que de la vanité. Alors l'apôtre reconnaît tous les trésors de la grâce envers les Corinthiens, le fait qu'ils étaient doués de tous les dons, dont ils ne se servaient pas nécessairement toujours pour leur profit, mais beaucoup plus pour leur propre avantage et pour leur propre orgueil. L'apôtre dénonce un certain nombre de dangers dans les quatre premiers chapitres concernant en fait la transcription dans l'assemblée de Dieu des principes de la Grèce antique, de la sagesse philosophique, qui consistait à chercher des chefs d'école, des chefs de parti. Même Christ aurait été un chef de parti au milieu des Corinthiens. Alors là, une chose qui est remarquable, qui explique un des passages que nous avons lus tout à l'heure, je vais lire le passage. Les Corinthiens, en fait, s'étaient trompés de dispensation. Ils s'étaient déjà imaginé qu'on pouvait régner, alors que, comme le Cantique 109 nous l'a rappelé, c'est le moment du deuil pour l'Assemblée. L'Église est étrangère. Elle n'est pas dans son domaine ici-bas. Elle a justement été arrachée du monde pour être un témoin, pour montrer ce que le monde est aux yeux de Dieu, pour annoncer le témoignage de la vérité et de l'Évangile, et pour que le domaine de la bénédiction, de la paix, de la joie soit reporté à plus tard dans un autre domaine, dans la nouvelle création. L'apôtre Paul est obligé de dire en 1 Corinthiens 4, mais Dieu nous a produit, verset 9, sur la scène, nous, les apôtres, comme des gens joués à la mort. Nous avons été faits un spectacle pour le monde, pour les anges et pour les hommes. Nous nous sommes fous pour l'amour du Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Au verset 8, mais vous êtes riches, vous êtes rassasiés, vous avez régné sans nous. Il aurait bien voulu que les Corinthiens règnent parce que Paul aurait régné avec eux, mais ce n'était pas le moment. Peut-être souvent, réfléchissons un peu, nous changeons de dispensation. Lorsque nous installons dans le monde, lorsque nous participons aux affaires de ce monde, il est bon que le chrétien soit engagé dans un travail pour subvenir à ses propres besoins, à ceux de sa famille, et pouvoir subvenir aussi aux besoins des saints. Mais lorsque nous nous engageons dans ce monde, est-ce que nous ne changeons pas de dispensation, peut-être? Alors ensuite, au chapitre 5, il y avait une chose qui était beaucoup plus solennelle encore, c'est-à-dire l'absence complète de moralité dans l'assemblée de Corinthe. Un des ordres qui faisait même honte au monde grec de l'époque. Il a bien fallu qu'ils en fassent, les Corinthiens. Au chapitre 6, ils portent leurs différends entre frères devant les tribunaux de ce monde, ce qui montrait complètement qu'ils avaient perdu de vue que l'Église est céleste et qu'un jour, les croyants jugeront le monde et jugeront même les anges. Je crois que c'est la seule mention qu'on trouve dans l'Écriture du fait que nous jugerons les anges. Au chapitre 7, il y avait toutes sortes de désordres en rapport avec le mariage. Et quand on pense à nos pauvres chers enfants, notre pauvre jeunesse, l'atmosphère dans laquelle notre jeunesse baigne, où actuellement les principes même du mariage, de la retenue, de la tenue morale sont complètement battus en brèche, même par le gouvernement de notre pays. C'est dramatique. Il vaut bien toute la grâce de Christ pour nous enseigner dans ce domaine-là. Et l'apôtre le fait avec une douceur et une pudeur qui est tout à fait merveilleuse. Mais il y a plus autre chose aussi. Les Corinthiens manquaient complètement de sagesse dans la question des choses sacrifiées aux idoles. Il faut se souvenir qu'ils étaient dans un domaine de religion idolâtre et qu'ils participaient quelquefois à des sacrifices d'idolâtres. Et on ne peut pas le faire. Au chapitre 9, ils mettaient en cause l'apostolat de l'apôtre. Et puis au chapitre 10 jusqu'au chapitre 15, c'est l'ordre, le principe moral de la vie des membres du corps de Christ les uns avec les autres qui oblige l'apôtre à rappeler un certain nombre de vérités fondamentales, notamment celle de la table du Seigneur, par opposition au repas idolâtre auquel les Corinthiens osaient participer, le fait que la scène du Seigneur était méprisée, traitée comme un repas ordinaire, que quelques-uns venaient même ivres et qui n'étaient pas dans un état moral pour le faire, sans s'être jugés eux-mêmes, et le Seigneur avait été obligé de les sanctionner sévèrement par la maladie et quelquefois par la mort. Dans les chapitres 12, 13 et 14, la vie du corps de Christ, de l'assemblée, des réunions d'assemblée, beaucoup de choses manquaient encore aux Corinthiens. Et le pire, au chapitre 15, quelques-uns allaient même jusqu'à nier la résurrection, c'est-à-dire tout était démoli. Au chapitre 16, l'apôtre leur parle des collectes, du fait qu'il est selon Dieu que nous fassions participer de nos biens temporels ceux qui nous font participer des richesses de la grâce de Christ par le ministère. L'apôtre va reprendre ces choses dans un autre ordre, dans la seconde épître. Nous savons qu'entre les deux épîtres, l'apôtre a visité la Macédoine et resté avec angoisse. Il parle de ses combats extérieurs et de ses craintes intérieures, un grand serrement de cœur, une faiblesse extérieure qui montre combien ces choses, Paul les prenait à cœur, jusqu'à ce qu'il obtienne enfin de meilleures nouvelles de l'assemblée de Corinthe par le ministère de Tite, qui est venu le retrouver dans les régions de Macédoine. Alors Paul leur écrit maintenant cette deuxième épître. La deuxième épître commence au milieu des souffrances et des afflictions, mais qui sont l'occasion pour Dieu de donner des consolations merveilleuses à l'apôtre, telles que l'apôtre qui en jouit va pouvoir maintenant les faire partager à d'autres. C'est ainsi que commencent les choses. On comprend mieux les circonstances de Paul lorsqu'on se souviendra que dans l'émeute d'Éphèse, Paul avait failli y perdre la vie. Il savait ce que c'était que donner sa vie pour son maître, de ne pas prendre sa vie pour grand-chose, être prêt à en faire don pour le maître qu'il avait acquis comme esclave. L'apôtre reprend la question du mal moral d'un Corinthien 5, et chose remarquable, il le reprend tout de suite après les consolations du premier chapitre, dans la première partie du chapitre 2. Et ensuite, il s'interrompt et ne reprendra ce sujet, ce thème-là, que dans le chapitre 7. Alors lisons ensemble pour bien comprendre cette parenthèse. Nous sommes en 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 2, le verset 14, 13. Vous voyez, j'ai trouvé Tite, mon frère, mais ayant pris congé d'eux, je suis parti pour la Macédoine. Et au chapitre 7, le verset 5, aussi lorsque nous arrivâmes en Macédoine, notre chair nous au corpo. C'est comme pour ainsi dire, l'apôtre reprend le sujet qu'il a momentanément interrompu entre les chapitres 2, verset 14, et le chapitre 7, le verset 5, et va conclure cette affaire de cet homme qui était tombé dans le mal moral, qui avait fait l'objet de ces instructions que l'apôtre leur avait données au chapitre 5 de la première épître. On verra d'ailleurs les immenses compassions dont Paul use envers cet homme. Il encourage les Corinthiens à ratifier leur amour avec lui, de sorte que cet homme-là ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Savons-nous, et je le dis pour moi le premier, savons-nous discerner les premiers mouvements du retour d'une âme en chute vers Christ, vers Dieu? Le Seigneur le sait, et le Seigneur le fait. Essayons davantage d'imiter le Maître. Il y a là un mélange extraordinaire de lumière, d'amour, de grâce. C'est, il me semble, comme le regard de lumière et d'amour que le Seigneur a jeté sur Pierre, tout de suite après qu'il avait renié son maître pour la troisième fois. Aucune parole, mais le travail de la repentance. Ce travail de la repentance, on le trouve au chapitre 7, pas avant. Ensuite, dans les chapitres 8 et 9, pour essayer de regarder un peu le tableau général de la seconde épître, on trouve la continuation de l'instruction du chapitre 16 de la première épître, c'est-à-dire les instructions sur les collectes. C'est à l'occasion d'ailleurs de cette collecte qui devait être faite, probablement d'ailleurs d'après l'épître aux Romains au chapitre 15, la collecte que Paul a emmenée pour les saints pauvres de Jérusalem, qui a été probablement à l'occasion sa capture et qui a mis fin à son service, son ministère public. Alors dans ces chapitres 8 et 9, il y a à l'occasion de la promptitude à donner des assemblées de Macédoine, qui devait être une comparaison pour les Corinthiens à faire de même, alors que les Corinthiens étaient probablement beaucoup plus riches que les Macédoniens, qui étaient probablement dans une grande pauvreté. Les deux points forts de ces deux chapitres 8 et 9, c'est, et on l'a rappelé hier dans notre étude, c'est la première, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 8 verset 9, étant riche, a vécu dans la pauvreté pour nous, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Et chapitre 9, le verset 15, c'est-à-dire la fin de cette partie de l'épître, grâce à Dieu pour son don inexprimable. Jusque-là, c'est-à-dire les sept premiers chapitres, l'apôtre a beaucoup parlé du ministère chrétien. J'espère qu'on comprend, c'est-à-dire le service de l'esclave, du serviteur du Seigneur Jésus, pour les âmes vis-à-vis du monde. À partir du chapitre 10 et jusqu'à la fin, c'est-à-dire les quatre derniers chapitres, 10, 11, 12 et 13, c'est beaucoup plus de la personne même du serviteur, du ministre du Seigneur, de l'Assemblée. D'un côté le ministère, de l'autre côté le ministre. Mais les choses vont tout à fait ensemble et se complètent remarquablement. Alors essayons de regarder le tableau que l'apôtre nous donne par son propre exemple et dans lequel nous avons à nous retrouver, d'un côté, dans notre petite mesure, et dans lequel nous avons à puiser des instructions, des enseignements, des encouragements et des avertissements. S'étant interrompu au chapitre 2, verset 14, l'apôtre va montrer un certain nombre de tableaux successifs qui montre ce que le ministère pour Christ, le ministère du serviteur du Seigneur Jésus, est à l'égard de ce monde essentiellement. Et les tableaux, on a quatre tableaux successifs. Le premier tableau, c'est celui du général romain qui revenait vainqueur de ses conquêtes, c'est-à-dire le triomphe romain. Le deuxième tableau, c'est celui de la lettre de Christ. Le troisième tableau, c'est celui du vase de terre qui garde en lui-même un trésor, la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Et le quatrième tableau qui complète la fin du chapitre 5, c'est le fait que les croyants sont des ambassadeurs. Il y a une mission, pour ainsi dire, plénipotentiaire, divine. Les croyants sont envoyés dans ce monde pour annoncer un nouveau service, un nouveau ministère, celui de la réconciliation. Alors voilà les quatre tableaux successifs qui nous présentent en fait, si l'on y réfléchit bien, ce qu'est le vrai témoignage du croyant et de l'assemblée sur la terre, assemblée étrangère dans ce monde, mais laissée ici comme témoignage, comme lumière du ciel au milieu du monde de ténèbres. Il y a attaché à ceci un certain nombre de principes moraux. On les trouve dans le chapitre 6 et on les trouve ensuite dans les chapitres 11 et 12. Dans le chapitre 6, on trouve que si un serviteur veut être fidèle à son maître, on l'a rappelé à Saint-Agrèque tout à l'heure, tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus sont persécutés. Il faut accepter les souffrances, les persécutions. Ces souffrances, l'apôtre Paul était bien placé pour en parler parce qu'il les connaissait pour lui-même. Elles sont associées à la fois à son service comme évangéliste et à son service comme ministre de l'Assemblée. Les souffrances pour l'Évangile, 2 Timothée 1,8, prend à part des souffrances. Les souffrances de l'Évangile, elles existent. Pourquoi ? Parce que l'Évangile ne peut pas être populaire. Il annonce la ruine de l'homme. Et il montre que les ressources sont ailleurs. Elles ne sont pas dans l'homme. Bon, ce témoignage ne peut pas être reçu facilement. Il faut un travail de la grâce pour labourer les racines du cœur naturel pour qu'on accepte ce message. Et généralement, si on n'accepte pas le message, on se débarrasse du messager. Donc ce sont des souffrances. Et puis il y a un autre côté, c'est celui de la séparation. Ne disons pas que nous sommes témoins, ne disons pas que nous sommes serviteurs de Christ, si nous nous mélangeons au monde sous quelque forme que ce soit. Le premier témoignage qu'un croyant doit montrer dans ce monde, c'est celui de la sainte séparation de tout mal, de toute forme de mal. Purifions-nous nous-mêmes toute souillure de chair et d'esprit, achevons la sainteté dans la crainte de Christ. Alors le tableau est repris dans les chapitres 11 et 12. Après ces deux paragraphes des chapitres 8 et 9 sur les dons et sur la libéralité dans les assemblées, le tableau est repris sous forme beaucoup plus personnelle. Et l'apôtre complète le tableau qu'il a donné au chapitre 6 de ses souffrances par toute une série de choses que nous n'aurions jamais apprises si les faux et méchants docteurs de Corinthe n'avaient pas forcé l'apôtre, pour ainsi dire, à sortir de lui-même, à son corps défendant, pour être obligé de justifier son apostolat, de justifier son service. Il le fait à regret, et il le fait d'une manière, avec une telle humilité, une telle énergie de cœur, qu'il me semble que le cœur le plus dur se fond dans la grâce. Mais il y a plus. Le Seigneur connaissait son cher apôtre. Il savait qu'il l'avait appelé pour un service exceptionnel, et il lui avait montré, par Ananias sur le chemin de Damas, combien il devait souffrir pour son nom. Acte 9. Eh bien, les souffrances, nous les avons dans le chapitre 11. Alors, pour soutenir la foi de l'apôtre, qu'y avait-il ? Une première chose. Emporter dans le paradis, dans le lieu céleste. Une deuxième chose nécessaire. Lorsqu'on descend du troisième ciel, on se retrouve avec soi-même, avec les peines et les souffrances, et puis les difficultés intérieures. Là, il faut une écharde. Et cette écharde, l'apôtre l'accepte et même rend grâce. De sorte que si l'épître, dans le tableau que nous essayons de dresser ensemble, commence par les consolations au milieu des afflictions, l'apôtre se termine par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette grâce qui est toute suffisante pour l'apôtre. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Alors essayons de regarder maintenant quelques détails sur les tableaux successifs que nous avons essayé de dresser ensemble. Premier caractère, c'est celui du triomphe romain. C'est assez remarquable d'ailleurs de penser que dans la première épître au chapitre 4, l'apôtre était à l'arrière du triomphe. Il était là sur la scène, un des derniers, pratiquement comme ceux qui étaient voués à la mort. Alors, nous savons ce qui se passait dans l'Empire romain. Lorsqu'un général partait en conquête, lorsque les victoires étaient acquises, ceux qui avaient aidé le général à acquérir la victoire était particulièrement récompensé et entourait le général vainqueur qui revenait généralement de triomphe produisé à Rome. Il était particulièrement l'objet des soins de l'empereur. Ce triomphe comportait le général vainqueur, comportait des hommes qui l'entouraient, qu'on appelait les turiféraires, et qui faisaient fumer de l'encens autour du général pour l'honorer. Suivaient ceux qui avaient vaincu avec lui, et ceux-là allaient recevoir gratuitement des terres, et pour ainsi dire, pour eux, recommencer une nouvelle vie. De sorte que l'odeur du général était pour ceux-là, les soldats qui avaient vaincu avec le général romain, était une odeur de vie. Puis derrière, à la fin du cortège, c'était la troupe terrible de ceux qui avaient été vaincus, et qui, sur un mouvement de l'empereur ou du général, au-dessus ou en dessous, étaient maintenus en vie ou, plus généralement, étaient voués à la mort. De sorte que le même triomphe, la même odeur de ce général était pour les uns une odeur de vie pour la vie, pour les autres une odeur de mort pour la mort. Alors l'apôtre se place là, et il ne sort pas de sa place en le faisant, dans cette place, ce cortège triomphal. Mais c'est Christ à qui la gloire est rendue. C'est Christ qui a remporté la victoire. Cette victoire, il l'a fait partager à ses apôtres, à ses serviteurs. La bonne odeur de Christ, elle doit être portée en tout lieu. Et chose remarquable, le même roc qui est le fondement du salut de notre âme est un roc de jugement pour ceux qui refusent la parole de la vérité et un roc de salut pour ceux qui l'acceptent par la foi et par la grâce. Et la pensée se retrouve dans toute l'Écriture. De sorte que maintenant, ce que nous sommes de ceux qui portent, chaque croyant à sa place, la bonne odeur de Christ en tout lieu, une odeur de mort pour la mort, une odeur de vie pour la vie. On a souvent rapproché ce symbole de ce qui nous est donné dans Exode 30, dans l'un des quatre parfums qui entraient dans la constitution de l'encens composé qui était utilisé dans le tabernacle, dans le sanctuaire céleste. Le galbanum, qui est cette substance âcre, d'une odeur qui est naturellement désagréable, entrait pourtant dans la composition du parfum du sanctuaire. La même odeur de Christ est une odeur de vie, une odeur de bénédiction, une odeur qui attire le cœur, attire l'âme, Mais lorsque le salut est refusé, c'est une odeur qui décide, qui confirme la mort. C'est le premier tableau. Le deuxième tableau qui est enchaîné au chapitre 2 est celui de la lettre de Christ. Nous n'avons pas à discuter. Nous sommes la lettre de Christ. On verra d'ailleurs comment les choses sont introduites, c'est extrêmement intéressant. L'apôtre n'avait pas besoin de lettre de recommandation, il n'avait pas besoin de porter de lettre de recommandation pour être recommandé. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que le fait même que les Corinthiens étaient dans la foi prouvait la véracité, la réalité, l'efficacité du travail du ministère de l'apôtre. Il reprendra cette pensée d'ailleurs au chapitre 13. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ce n'est pas une introspection pour savoir si nous sommes sauvés ou si nous pouvons ou non perdre le salut de notre âme. C'est simplement ce que disait Paul aux Corinthiens. Puisque vous êtes des croyants, eh bien vous devez bien confirmer par cela même, puisque l'évangile vous a été annoncé par moi, par mon ministère parmi vous, vous devez bien confirmer que je suis apôtre au milieu de vous. L'apôtre commence donc par les lettres de recommandation et nous parle maintenant d'une lettre. Alors la lettre, par comparaison, il la rattache aux tables de la loi. Les tables de la loi, elles étaient écrites sur de la pierre, bien qu'écrites du doigt de Dieu. C'était une loi qui était parfaite, la règle parfaite du bien et du mal dans l'homme, mais c'était une loi qui était attachée à un ministère temporaire, un ministère qui n'a en fait été que celui de la condamnation, parce que la loi a démontré que le péché caractérisait l'homme et que rien ne pouvait être amené à la bénédiction et à la perfection par cette loi. L'homme ne le savait pas, Dieu le savait. C'était l'épreuve nécessaire de l'homme. Maintenant, les choses sont changées. C'est une nouvelle dispensation. C'est un nouveau ministère. Il y a contraste remarquable entre le ministère de l'Esprit et le ministère de la loi. Le ministère de l'Esprit, c'est en fait le thème, c'est la lecture de la lettre. C'est le thème même de cette lettre. Ce ministère de l'Esprit, il est basé sur les choses qui demeurent. Il apporte la joie et la bénédiction. Au contraire du ministère de la loi qui apporte la malédiction. Et puis, il transcende le temps. Il nous rattache à l'éternité. Alors maintenant, cette lettre, nous sommes la lettre de Christ. Un croyant personnellement ne peut pas prétendre être la lettre de Christ. Nous sommes un témoin laissé pour Christ. Mais ensemble, je crois que c'est vraiment le côté collectif qui est présenté, l'assemblée de Dieu sur la terre, colonne et soutien de la vérité, est la lettre de Christ. Le véritable problème qui se pose à nous, cette lettre que nous sommes est-elle de telle manière que le monde puisse la lire en nous. Et tout est moral dans ce domaine-là. Où se trouve le secret? Mais il est à notre insu même. C'est à la fin du chapitre que nous le trouvons. Nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, en esprit. Le Seigneur est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Alors comment pouvons-nous pratiquement, collectivement, et chacun dans notre mesure aussi à notre place, être cette lettre de Christ qui sera donnée à lire et à connaître aux hommes en contemplant la face découverte. Et la manière dont l'apôtre introduit cette contemplation morale de Christ dans la gloire est de toute beauté. Il rapporte cet incident remarquable du veau d'or lorsque Moïse descend de la montagne la première fois, brise les tables de la loi pour sauver la vie du peuple, puisque la loi aurait condamné le peuple, Aaron compris, à une mort instantanée et immédiate. La deuxième fois, il remonte et Dieu lui dit d'apporter d'autres tables qui sont de nouveau écrites du doigt de Dieu. Et là, Moïse a contemplé la gloire magnifique de celui qui ne peut être vu de l'homme et que l'homme puisse continuer à vivre. Il l'a caché dans la fente du rocher. Il lui a dit « Je te verrai, tu me verras par derrière. » Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. Alors l'apôtre reprend cette expression du voile sur le visage de Moïse pour faire comprendre que maintenant l'endurcissement moral du peuple d'Israël demeure jusqu'à ce que le voile soit levé en Christ. Un jour, tout le voile sera retiré des yeux et du cœur du peuple. Enfin, ils contempleront avec tristesse le Messie qu'ils avaient retranché, mis à mort et qu'ils avaient percé. Et ceci sera pour la bénédiction millénaire, la bénédiction future, ce peuple terrestre, ce peuple admirable, ce peuple qui attend, merveilleux, destin d'aller au-delà. Alors moralement, spirituellement parlant, l'apôtre enchaîne en disant, bien nous, c'est une immense et merveilleuse différence, c'est une immense supériorité de l'état chrétien par rapport au système antérieur de la loi. Maintenant, nous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur. Si j'osais, j'avais trouvé quelque chose de toute beauté dans un article de CHM. Nous réfléchissons comme un miroir la gloire dont nous nous nourrissons spirituellement. Et nous devenons ainsi en conformité à l'image du Seigneur par le puissant ministère du Seigneur, du Saint-Esprit de lui-même. Pour ceux que ça intéresse, CHM Short Papers, volume 2, page 4. Il vaut la peine de relire tout le texte. Alors voilà comment, en pratique, nous pouvons être pratiquement la lettre de Christ connue et lue de tous les hommes. Le troisième tableau est celui du trésor et du vase. Là, il est très important parce qu'il enchaîne sur quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. D'abord, quel est ce trésor? Le trésor, c'est l'évangile du Dieu bienheureux. Christ est l'image du Dieu invisible, l'image de Dieu. Le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres, la lumière resplendit, qui a relué dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. C'est plus que l'évangile du salut, c'est un évangile glorieux, l'évangile du Dieu bienheureux. C'est un message de bonne nouvelle apporté au monde. Alors ce message, il est contenu dans un vase. Ce vase, c'est la nature humaine des croyants. Et je pense qu'ici, c'est plus individuel que le côté de la lettre de Christ qui est plus collectif. Alors l'image de de vase de poterie, Jérémie 18 et bien d'autres passages, Romains 8, 9, sauf erreur, nous montre que c'est l'assimilation, le symbole de la nature humaine dans son caractère de faiblesse intrinsèque. Nous savons que l'homme a été formé de la terre, de l'argile du sol, par un acte de puissance divine. La vie dans le corps est le résultat d'un conseil divin. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, mais l'homme demeure dans son corps, dans une habitation transitoire qui un jour doit être détruite. Ce qui fait la valeur du vase, ce n'est pas sa valeur intrinsèque. L'argile n'a pas de valeur marchande. L'apôtre, quelque part, dans 1 Corinthiens 3 et 2 Timothée 2, mais le sujet nous entraînerait trop loin, assimile quelquefois les vases à des vases de valeur plus importante, tels que les vases d'or et d'argent, ou de bois et de terre. Ici, c'est le côté de la nature humaine dans sa faiblesse intrinsèque. Alors, comment les choses peuvent-elles se passer? Si le vase contient ce trésor et que le vase reste fermé, personne ne le verra, ce trésor. Personne ne sera en contact avec la valeur de ce qui est contenu. Donc, il faut naturellement que le vase soit brisé. Alors, ce vase est brisé, qu'est-ce que c'est? C'est en pratique, c'est que la nature humaine est annulée dans le croyant. L'apôtre était bien placé pour le savoir et il donne, sauf erreur, 5 occasions de le dire. Alors d'un côté, essayez de faire le tableau dans votre esprit. D'un côté, ce qu'est le vase. De l'autre côté, la réponse de la puissance divine à la situation particulière du vase. Dans l'ordre. Dans la tribulation, de toute manière, c'est le vase. De l'autre côté, non pas résidu de l'étroit. Dans la perplexité, le vase, non pas sans ressources. Persécuté, non pas abandonné, abattu, ne périssant pas, la conclusion, portant toujours, partout dans le corps, la mort, le mourir de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Combien ces choses peuvent paraître à l'esprit naturel humain comme un paradoxe incompréhensible. Comment pouvons-nous comprendre qu'il faut que ce soit la vie pratique de Jésus manifestée dans notre corps pour que la vie aussi de Christ puisse être manifesté. Eh bien, voilà le secret. Alors, l'autre exemple que l'apôtre, probablement, auquel l'apôtre probablement se réfère, c'est celui connu de chacun, de juge, des Gédéons et des 300 hommes sélectionnés à la source de Harod. À partir de 32 000 personnes qui étaient prêtes au combat, il n'est resté que 300 hommes. 300 hommes qui étaient prêts à combattre. Alors, qu'avaient-ils? Ils avaient un vase, une cruche, ils avaient les torches, ils avaient les trompettes. Il a fallu probablement, si j'ai bien compris le sens du livre des juges, probablement les vases, les cruches devaient contenir la nourriture du peuple, dont ils se sont donc, qu'ils ont prises pour pouvoir être soutenus dans l'ardeur du combat. Ensuite, il fallait que la cruche soit brisée, de sorte qu'il restait d'un côté la torche et de l'autre côté, il restait la trompette. La trompette, c'est la parole de Dieu, nombre 10 et toutes les applications successives. Et de l'autre côté, la torche, c'est le témoignage céleste, divin, la lumière de Dieu sur la terre. La cruche devait être brisée pour que les 300 hommes avec Gédéon, divisés en trois corps de 100 hommes, puissent monter au combat et remporter la victoire. L'épée de Gédéon devient maintenant l'épée de l'Éternel et de Gédéon. Et le combat est complet, la victoire est totale. Il me semble que au témoignage de 2 Corinthiens 4 s'ajoute ce côté de Juges 6 et 7 qui ajoute le caractère du combat. Le combat peut-être va bientôt finir. Mais si nous n'acceptons pas le combat, nous ne pouvons pas prétendre être de véritables témoins pour Christ. Le combat, c'est fatigant. Le combat, c'est pénible. Le combat suppose un renoncement à soi-même. Et n'est-ce pas absolument ce que l'Écriture veut nous enseigner ici? L'apôtre dit en Colossiens 3, « Vous êtes morts ». C'est la déclaration fondamentale. Non pas mourir pour être pour, mort pour mourir, mais afin que la vie de Christ, vous êtes morts, mortifiés. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Tenez-vous vous-même pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Romains 6. Et alors maintenant, l'application pratique par le serviteur de Dieu qu'il a réalisé pour lui-même et qui peut donner son exemple à d'autres, portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Alors où conduit ceci? Cette application pratique de la mort de Christ à la nature humaine. Je dis en passant, bien que le temps s'avance, ne confondons jamais la nature humaine avec la chair qui est en nous. Le mal n'est pas dans la nature proprement dite, le mal est dans la chair. C'est de toute importance parce que les gnostiques, au temps du début de l'Église, ont enseigné l'inverse et ont amené un désordre indescriptible dans l'Église du Seigneur. Alors, où ces choses conduisaient-elles l'apôtre? À 50 ans, à s'appeler un vieillard. Moi, Paul, un vieillard. Son corps, sa nature extérieure dépérissait. Et pourtant, n'était-il pas heureux? C'est le seul homme heureux, en acte 26, devant les grands de ce monde. Plus à Dieu que non seulement toi, mais tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Vous soyez de toute manière tel que je suis, hormis ces liens. Le seul homme heureux. Et qu'était-il? Prisonnier. A-t-il perdu ses liens? Absolument pas. On l'a repris prisonnier, il est parti à Rome. Et pourtant, c'était le seul homme libre, le seul homme heureux. Est-ce que nous ne désirerions pas quelque chose de cette conformité à l'apôtre parce que c'est une conformité à Christ? Soyez mes imitateurs, frères, comme moi aussi, je le suis, de Christ. Je n'ose pas en parler parce que, jeunes, nous ne sommes pas tellement des modèles devant vous. Mais le modèle, il est Jésus. Essayons de nous encourager les uns et les autres à davantage imiter le modèle inimitable. Alors, où ceci conduit-il? Eh bien, à un terme, l'homme extérieur va dépérir. Et pour Paul, il en a bien fallu presque arriver là, dans les meutes d'Éphèse. Il a failli perdre sa vie plusieurs fois. Mais l'homme intérieur était renouvelé de jour en jour. Et après tout, déposer sa tente, est-ce quelque chose qu'on doit craindre? Mais non. Pierre était content de le faire. Le maître lui avait déjà dit que sa tente allait être déposée bientôt. Et Paul le savait. Nous savons que si nous avons une maison terrestre qui est détruite, la nature humaine, le corps, eh bien nous allons l'échanger contre quelque chose de merveilleux. Et il a maintenant devant lui les deux objets de terreur d'un homme s'il n'est pas complètement aveuglé, la mort et le jugement. La mort n'est qu'un passage dans un lieu meilleur, de transitoire et de souffrance dans un milieu permanent de bonheur et de félicité. Et l'apôtre ainsi enchaîne sur le tribunal du Christ. Un objet de frayeur pour les hommes. Qui peut penser, peut supporter l'idée d'être traduit devant le tribunal de Dieu, Romains 14, ou de Christ? Mais si nous sommes du côté du juge, et nous savons, si nous savons que le jugement a été porté par celui-même qui va siéger sur le tribunal, quelle crainte avons-nous? Si, une crainte quand même, la frayeur du Seigneur. Non pas la crainte d'être traduit en jugement, mais la crainte, aujourd'hui, une sainte crainte, de nous appliquer avec ardeur, pendant l'absence de Christ, jusqu'à son retour, à lui être agréable. Nous désirons donc avec ardeur avoir revêtu notre domicile qui est du ciel, et nous désirons avec ardeur nous appliquer maintenant à vivre pour Christ. Tous donc sont morts. S'il est mort pour tous, tous donc étaient morts et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes et pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Mais était-ce le cas de tous les hommes? Non. Nous espérons bien que tous ceux qui sont ici ce soir ont Christ comme sauveur. Alors, cette perspective du tribunal n'inquiétée par l'apôtre ne devrait pas nous inquiéter, sauf qu'elle met toute chose dans la lumière. Mais en même temps, elle devrait nous inciter par l'étreinte de l'amour du Christ à avertir les hommes. L'amour du Christ nous étreint. Et voilà, il me semble, le véritable mouvement de cœur de l'évangéliste qui va prêcher l'évangile dans le monde. L'amour du Christ doit étreindre son cœur. Et ceci conduit au quatrième tableau, au dernier tableau de cette première phase de l'épître, c'est le caractère du ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation est quelque chose de tout à fait nouveau qui est fondé sur l'œuvre de Christ. Par anticipation d'ailleurs dans l'histoire d'Israël, c'était le jour des expiations, Lévitique 16, qui en donnait les grands principes généraux, les grands principes moraux. L'homme, par ses actions, par le fait que la mort et le péché a passé à tous les hommes en ce que tous ont péché, l'homme s'est constitué ennemi de Dieu. Nous étions ennemis dans nos entendements quant aux mauvaises œuvres. Maintenant, l'œuvre de Christ à la croix a tout changé. Dieu s'est réconcilié avec les choses créées et avec les croyants mis au bénéfice de l'œuvre de Christ. La réconciliation des choses créées et la réconciliation des croyants sont les deux grands objets de la réconciliation de Colossiens 1. C'est la reprise sur une base complètement nouvelle des relations entre Dieu et l'homme rendues possibles par la croix et qui avaient été interrompues par l'entrée du péché dans ce monde. Mais il y a plus que l'exposé de cette doctrine de la réconciliation. Il y a le fait que les croyants maintenant sont des ministres, sont des délégués, sont des envoyés, sont des messagers de la part de Dieu pour prêcher que Dieu n'impute pas leur péché au monde, mais met en nous la parole de la réconciliation. Chapitre 5, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Alors on notera soigneusement que la majesté de Dieu est telle que ce n'est pas Dieu qui supplie, c'est nous qui, de la part de Dieu, en Christ, supplions pour Christ d'être réconciliés avec Dieu. Et le fondement de cette réconciliation, c'est un passage qui est d'une extrême simplicité et qui ne peut être saisi absolument que par la foi, sans discussion de l'intelligence humaine. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Nous avons donc d'être les porteurs de la vérité de Dieu, la bonne odeur de Christ en tout lieu, odeur de vie pour la vie, odeur de mort pour la mort. Nous sommes la lettre de Christ et nous le serons en pratique si nous reflétons ce que nous avons contemplé des gloires de Christ dans la gloire. Nous sommes porteurs comme vase de faiblesse et d'infirmité d'un trésor merveilleux, le service, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Si le vase est brisé, la vie de Christ, et si nous portons toujours et partout la mort de Jésus, la vie de Christ sera manifestée dans notre chair mortelle et nous donnerons à connaître au monde ce trésor de la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Enfin, le ministère de la réconciliation, il sera porté au monde. Dieu ne leur vous impute pas vos fautes. Dieu, il met en nous la parole de la réconciliation. Voilà les quatre tableaux. Maintenant, les conditions pour qu'effectivement ces choses soient rendues possibles dans la vie du chrétien. D'un côté extérieurement et de l'autre côté intérieurement. Extérieurement, l'acceptation des souffrances. Intérieurement, la séparation. Alors cette séparation va très loin. Je ne rentre pas dans les détails, c'est les chapitres 6, le verset 13 jusqu'au chapitre 7, verset 1. La séparation est dans tous les domaines, moral, religieux, professionnel. Et nous encourageons ceux qui sont dans les affaires de ce monde d'être d'une extrême prudence avant de s'engager dans des associations qui pourraient leur réduire leur liberté en Christ et qui pourraient pratiquement les empêcher d'être des témoins pour Christ. Si nous nous associons dans les affaires avec quelqu'un qui a le monde comme but et qui a la recherche de l'argent et des honneurs comme but devant lui, il est impossible que nous conservions pratiquement notre caractère de témoin. Mais il y a beaucoup plus, il y a les associations religieuses, là c'est fondamental, l'accord de Christ avec Béliard, l'accord de Christ et la communion entre la lumière et les ténèbres, l'association est impossible. Nous disions tout à l'heure, associer la vérité et l'erreur ne fait pas changer l'erreur qui ne devient pas vérité pour autant, elle ne devient pas moins d'erreur par elle-même, mais simplement l'association tentée entre la lumière et les ténèbres fait perdre la lumière, l'association entre la vérité et l'erreur fait perdre la valeur de la vérité et ne change pas l'erreur. Si vous êtes intéressé par le sujet, recherchez les deux questions qui ont été posées par Agé au sacrificateur, et vous verrez très bien que placer quelque chose de saint à côté de quelque chose qui est profane, eh bien, change le caractère de ce qui est saint en profane, et ne change pas le caractère de ce qui est profane en étant quelque chose de sanctifié, au contraire. Donc l'association entre le bien et le mal n'est pas une association à part entière. La seule manière d'être fidèle à Christ, c'est de sortir, c'est d'être séparé. C'est difficile, ça implique beaucoup de souffrance. C'est le seul chemin de la bénédiction, la séparation. Alors la conclusion, elle est de toute beauté, ayant donc ses promesses. Quelles promesses ? Eh bien que le Dieu Tout-Puissant nous assure de sa présence personnelle au milieu de nous, dans l'Assemblée de Dieu. Ayant donc ses promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Alors l'apôtre prend à partir du chapitre 7, le sujet entamé au début du chapitre 2, sur les soins d'amour à donner à cet homme qui avait fait l'objet de la discipline de 1 Corinthiens 5. Et puis, il va maintenant parler, à partir du chapitre 10 jusqu'au chapitre 13, si j'ose dire, du côté intérieur des choses. Il y a la façade extérieure, la façade de ce que le monde voit, les quatre aspects du témoignage personnel et collectif. Mais il y a les exercices intérieurs de la foi ordinaire du serviteur. Et nous n'en aurions rien su, n'aurions pas su autre chose que la liste incomplète, volontairement incomplète, du chapitre 6, si les faux docteurs de Corinthe n'étaient pas déchaînés de façon méchante contre l'apôtre, et je suis scandalisé de leur attitude, de leur conduite. Si on n'avait pas été aussi méchant contre Paul, si on n'avait pas mis en cause son témoignage, mis en cause son ministère, son apostolat, l'apôtre n'aurait jamais dit ce qu'il avait gardé pour lui-même. Il ne s'en glorifie pas. Il le dit avec un tel élan de sincérité, c'est d'une grande beauté morale. Personne n'a approché le modèle d'aussi près que l'apôtre. Et pourtant, il y a encore une distance infinie entre le cher apôtre, le grand apôtre des nations, et le Sauveur, le Seigneur Jésus, le vrai serviteur de l'Éternel. Alors que voyons-nous dans le chapitre 12 ? Au chapitre 12, nous avons deux tableaux. Le premier tableau, c'est l'encouragement que le Seigneur a voulu particulièrement pour Paul, pour le soutenir à travers cette séquence extraordinaire d'événements exceptionnels. En plus de ce qu'il tenait à siéger tous les jours, la sollicitude pour les assemblées, en plus du fait qu'on n'a guère compris Paul, il n'a guère été soutenu par une réponse d'amour des Corinthiens. Tout au long de son service, où le voyons-nous ? Philippiens, tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus sont persécutés, tous m'ont abandonné. En 2 Timothée 4, c'est la même chose, il était tout seul en Asie. Sauf quelques âmes comme Onésiphore, Luc seul était avec Paul. Rien n'a quand même arrêté le courage de l'apôtre. Alors le Seigneur savait que l'apôtre avait besoin d'un encouragement. Il l'emmène dans un domaine merveilleux, le paradis, le troisième ciel. Le troisième ciel, il n'est nommé que là, je crois, de Corinthiens 12. Le paradis n'est nommé que trois fois. C'est le lieu de repos et de délices promis aux brigands repentants en Luc 23. C'est le lieu où va croître l'arbre de vie et le fruit qui sera pour la guérison des nations. Les feuilles pour la guérison des nations, pardon, et le fruit pour la nourriture spirituelle du saint qui aura remporté la victoire, du racheté du Seigneur à Éphèse qui aura remporté la victoire. Et ici, c'est le lieu où Paul, était-ce hors du corps ou dans le corps, était-ce donc esprit, âme et corps qu'il était entraîné, enlevé vers le ciel, ou était-ce simplement en esprit, lui-même ne le savait pas, et il y a entendu là des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. C'est une chose merveilleuse. Et l'apôtre en garde pendant 14 ans un souvenir toujours renouvelé. Il ne nous en avait jamais parlé. Là, il ouvre son cœur. Mais la difficulté, et c'est là où on voit l'immense différence entre l'apôtre et le maître. Recherchez, chers frères et sœurs, les circonstances du Sauveur bien-aimé, lorsque sur la montagne de la Transfiguration, il a été transfiguré devant les yeux émerveillés de ses disciples. Dans cette scène, 15 jours avant la croix, il redescend de la montagne, il était égal à lui-même. Paul redescend sa montagne spirituelle, son troisième ciel est du paradis de Dieu. Où était le danger ? Eh bien, de se glorifier en se disant à lui-même, après tout, personne n'a eu ce privilège-là. Et la racine de l'orgueil, ne nous la cachons pas, elle est dans le cœur de chacun. Et le Seigneur le savait. Et il lui envoie une discipline préventive, avant même que cette occasion ait été fournie à l'apôtre Paul de tomber par orgueil, ce qui est le piège et la faute du diable. Le Seigneur, en grâce, par anticipation, préventivement, lui envoie cette écharde. Cette écharde, on s'est acharné à essayer de savoir ce que c'était, nous ne le savons pas. Il est clair que c'était quelque chose qui rendait l'apôtre petit à ses propres yeux, qui l'humiliait à ses propres yeux, lorsqu'il exerçait son service. C'est-à-dire, plus il était fidèle au maître, pour donner de la part du maître le message qui lui était confié pour l'évangile ou pour l'assemblée, et bien plus cette écharde le ramenait à la souffrance intérieure. Il a supplié par 3 fois. Il a gardé ce secret 14 ans par-devers lui. 14 ans, c'est long dans une vie d'homme. Son service n'a guère duré que 30 ou 32 ans. Donc pendant à peu près la moitié de son service, il n'en a parlé à personne. Et maintenant, il nous le déclare, non pas pour que nous l'admirions, que nous le plaignions, mais au contraire pour que nous apprenions la grande leçon. Alors cette grande leçon, je voudrais terminer là-dessus, c'est une leçon de toute la vie. Le fondement de la leçon, c'est « ma grâce te suffit ». L'épître commence par les consolations au milieu des souffrances. Cette phase de l'épître se termine par « ma grâce te suffit ». Mais si « ma grâce te suffit », oui, facile à accepter. Mais « ma puissance s'accomplit dans l'infirmité », il faut toute la vie chrétienne pour en comprendre un petit quelque chose. Et nous vous le disons, chers frères et sœurs, chers jeunes en particulier, d'expérience, parce que il est long de porter véritablement, partout et toujours dans le corps, le mourir à la mort de Jésus, de sorte que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Monter au 4e ciel, si on en avait un autre, n'aurait rien résolu pour l'apôtre. Rechercher un détail. Et les récits des évangiles sont de toute importance pour cela. La manière dont les disciples se sont comportés lorsqu'ils sont redescendus de la montagne avec leur maître. On ne voit jamais des circonstances aussi douloureuses et une distance aussi grande entre le maître et les disciples. Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, entraînés par leur mère ou emmenant leur mère avec eux, va négocier avec le Seigneur Jésus une place dans le royaume. On essaye de faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ils n'étaient pas du même bord que les disciples. Et le Seigneur leur dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et en négligeant la prière et le jeûne, ils étaient incapables de chasser un démon. Et le Seigneur leur dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je, génération incrédule ? Nous avons navré le cœur du Seigneur Jésus lorsque nous laissons la chair agir en nous. Que le Seigneur nous aide simplement avec la puissance qu'il nous donne, et cette puissance est toute suffisante, de jouir de sa grâce et d'accepter que sa puissance s'accomplit dans l'infirmité. Alors nous pourrons nous réjouir, nous glorifier même, dans nos infirmités. Voilà ce que c'est que de porter toujours et partout dans le corps la mort de Jésus. Peut-être que c'est long, ça n'est jamais décourageant. La vie chrétienne vaut la peine d'être vécue, c'est la seule qui mérite d'être vécue. Mais pensons à ce moment glorieux, et le cantique, il me semble, la rappeler à chacun de nos cœurs, ou alors la foi sera changée en vue. Nous n'aurons plus besoin de maintenir la ceinture sur nos vêtements, nous pourrons laisser flotter nos vêtements. Il y aura un moment heureux et merveilleux où l'Église sera présentée à Christ, ou alors Dieu sera tout en tous, où Christ sera l'objet absolu des méditations, des affections et du cœur de ses rachetés. Pensons à ce moment glorieux et dans l'intervalle, ne perdons pas le moment précieux que le Seigneur nous accorde pour être ses témoins ici dans le monde qu'il a rejeté.